Luxembourg, le cabinet de conseil Grant Thornton, à l'époque le 7e derrière les Big Six. Rien ne me prédisposait à entrer dans ce milieu-là, si ce n'est l'envie de gagner de l'argent. Très bien, c'est son droit. Après, il dit « Le fait d'avoir conseillé des grands groupes sur des montages fiscaux légaux dans des centres offshore, comme les îles Vierges, m'a inspiré pour une idée de campagne à développer pour Greenpeace. » Très bien. Alors, ensuite, il dit « L'objectif peut se résumer ainsi. » Au lieu d'être des militants exerçant une profession dans le monde associatif, devenons des professionnels qui continuent à militer. Nous sommes donc sortis de la logique voulant qu'un salarié de Greenpeace soit recruté de manière prioritaire parmi les militants. Ce qui a bien sûr engendré des tensions énormes en interne. Sur les 45 salariés présents au moment de mon arrivée, 25 ont quitté Greenpeace. Certains sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre cette logique de professionnalisation. D'autres ont été licenciés, mais de manière motivée et aucun recours devant le Conseil des Prud'hommes n'a été gagné. Voilà donc un homme qui est le directeur d'une association soi-disant écologiste et qui se flatte d'avoir conduit des gens devant le tribunal des Prud'hommes et qui se flatte que ces gens n'aient pas gagné leur procès devant le tribunal des Prud'hommes. Quel patron de combat oserait tenir ce type de discours devant un micro aujourd'hui? Je ne sais pas si on en trouverait si facilement que cela.
Yvan nous appelle de l'Ain. Bonjour Yvan.
Bonjour Monsieur Hulot.
France Inter.
Voilà, donc moi je suis un écologiste dans mes pratiques au quotidien, surtout on va dire. J'y crois fermement, j'entends bien votre discours.
6 octobre 2009.
Et en fait, je me pose des questions, voilà. Je me pose la question surtout de savoir s'il n'existe pas une contradiction entre le fait que vous soyez financé par des sociétés multinationales qui n'ont absolument aucun intérêt à ce que nous diminuions nos échanges et notre consommation au quotidien, et le fait que vous, ben, de notre côté, vous puissiez dire qu'il faut absolument changer nos modes de consommation. Parce que votre discours, il est très bien, mais dans vos pratiques, et surtout dans vos financements et dans les sociétés qui vous financent, je ne comprends pas.
Merci Yvan pour cette question, Nicolas Hulot.
Alors, il faut essayer de bien comprendre une chose. Moi, j'ai une fondation reconnue d'utilité publique. Comme dans tout engagement, il faut des moyens. Il faut des moyens humains et il faut des moyens financiers. J'ai pas trouvé, mais si on me trouve un autre moyen, d'autres moyens que pour trouver des financements, d'aller frapper des acteurs économiques. D'ailleurs, au passage, moi, je n'ai pas une vision diabolique du monde économique. Je ne les mets pas tous, évidemment, au même niveau. C'est aussi le monde du travail. Donc, je préfère aller chercher des moyens auprès des acteurs économiques à deux conditions exclusives. D'abord, dans une relation de mécénat qui est encadrée par la loi, c'est-à-dire que ce n'est pas donnant-donnant. Et la deuxième chose, c'est qu'en aucun cas, ça contraigne ma liberté de parole et ma liberté d'expression et ma liberté d'action.
Vous n'avez pas peur de devenir une caution pour les entreprises qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes intérêts que vous?
Mais vous savez, c'est comme les politiques, ça les contraint aussi à évoluer, ça les contraint à avancer.
Je voulais juste revenir à EDF. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur la façon dont EDF ou une autre entreprise de genre-là peut utiliser votre image et le fait qu'elle...
Mais ils ne peuvent pas l'utiliser.
Et le patron d'EDF n'a pas le droit de dire « mais je finance Nicolas Hulot, laissez-moi tranquille ».
Enfin, il ne le dit pas comme ça. Mais enfin, je sais pas, ça me paraît normal qu'on aille chercher de l'argent là, que ça soit à ces groupes-là de nous permettre d'agir. Si j'allais chercher de l'argent prioritairement chez les particuliers, on me dirait
« mais, non, mais pas, eux, ils le font avec le nucléaire, Thomas,
c'est bon maintenant ».
On continue avec Fabrice Nicolino. Qui a tué l'écologie? On en est au troisième de la bande des quatre, qui s'appelle Nicolas Hulot, avec sa fondation, Fondation Nicolas Hulot. Et celui-là aussi, que vous connaissez, avec qui vous avez eu ou vous avez des relations amicales, vous lui faites sa fête.
Ouais, c'est vrai, je reconnais. J'assume. Bon, c'est un type pour qui j'ai de l'estime, mais ça ne m'empêche pas de voir clair quand même. Qu'est-ce qu'il faut dire de Nicolas Hulot? D'abord, il faut redire, tant pis si ça lui est désagréable, qu'il n'a pas rompu avec les liens qui le tiennent liés à l'univers industriel. Je crois qu'il faudrait être naïf pour le croire. Nicolas Hulot, au conseil d'administration de sa fondation, siège par exemple TF1. C'est quand même pas l'ami des grands espaces, que je sache. Siège EDF. EDF, notre monopole de l'électricité, notamment nucléaire, siège L'Oréal, siège des entreprises de cette sorte-là. Donc il n'est pas naïf à ce point, tout de même. Il est très naïf, mais pas à ce point. Nicolas Hulot sait ce qu'il fait. Et donc il reste lié à l'univers de la marchandise et à l'univers de la grande industrie. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, Alors là, oui, je crois qu'on peut l'accuser de naïveté. Moi, parlant de lui, j'utilise beaucoup l'expression « boy scout » parce qu'on a l'impression avec lui qu'on entre dans un monde enchanté où si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, ça serait merveilleux. Sauf que les gars du monde ne veulent pas se donner la main, donc ce n'est pas merveilleux.